Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous sommes ensemble donc dans cette soirée de nos lectures en liberté pour la suite du récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Je quittais Oraison par un pont sur la Durance et montais dans les oliviers vers le visage de l'Urse où je sifflais un sirop sur une terrasse de terre tachée par l'ombre des mûriers. L'alcool m'était interdit par l'Académie de médecine. J'avais bu pour la vie au cours de ces dernières années, noyé des caravanes de souvenirs dans des guets de vodka. À présent, fini. Le robinet magique était fermé. Je payais cher la dette contractée au bureau des excès. Ne pouvant me permettre de réveiller les démons, il me fallait oublier la grâce de l'ivrogne, celle d'accueillir des carnavals dans son crâne. Et ce soir, sous un ciel pourtant idéalement bariolé pour vider une carafe de vin de Provence, je me contentais d'un verre flasque. Le paysage se borna à ressembler à ce qu'il était. En bas, le cours de la Durance. Les rives vrombissaient, actives, striées d'autoroutes, marquetées de hangars. Ici, en contre-haut, se trouvait un village musée pour lecteurs de Pagnol. Il n'y avait pas un seul paysan, mais des dames anglaises. Elles se promenaient avec des chapeaux de paille, en s'extasiant de la lumière. Entre les deux, sur le versant des forêts vides, où serpentait le lierre. Là, quelque chose, un chemin noir, menait quelque part. Il pouvait conduire vers une ruine, une écurie, une clairière. Ce serait un bon début, une fissure dans le présent. Je descendis vers le pont romain de 20 mètres, d'où s'élevait le chemin d'accès au monastère de Ganagobi. En ces lieux, à l'ombre de l'arche, il y a 2000 ans, clapotaient des naïades. Puis le dieu chrétien les avait repoussés dans les grottes. C'était la même histoire que les lézards. Les époques se succédaient, les maîtres changeaient, les seigneurs du moment refluaient dans leurs caches, les dieux se remplaçaient, de nouveaux temples s'élevaient sur la fondation des anciens. La ruralité avait connu ce sort, le paysan avait changé de métier. Il ne fallait pas être triste de ces passos dobles. Il fallait accepter les adieux et monter en haut de la côte. Le 5 septembre, vers la montagne de Lure. La nuit au monastère de Ganagobi avait été d'un bon secours. Les moines m'avaient gratifié d'une cellule plus confortable qu'un tapis d'humus. Les complis, le soir, sous la voûte de l'église, avaient l'effet des volutes d'opium telles que je me les imaginais. J'avais mangé la pâte noire, mais jamais tiré sur la pipe. Les pierres calcaires absorbaient ces chants depuis le XIIe siècle, peut-être rayonnaient-elles de ces vibrations. Les hommes en noir maintenaient leurs usages, leurs gestes, répétait les mots, tenait bon dans le cours du fleuve. En bas, dans la vallée, les modernes trépidaient. Ici, l'équipage maintenait l'expression de son angoisse. Mon admiration était lardée de stupeur, car dans cette célébration née de la règle, transpirait la panique de perdre pied. Pourquoi la vision des naufragés de la Méduse de Jéricho me passa-t-elle devant les yeux ? Entendais-je une prière ou une imploration ? Je me doutais que ces « Viens à notre secours » éclatant sous les arcs romans renvoyaient aux tentations de l'âme. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils étaient incongrus, car l'homme n'était pas menacé. En 2050, nous serions 10 milliards sur la Terre. Si j'avais entendu les bêtes des bois, des fleuves et des eaux appeler au secours, j'aurais pris au sérieux leur supplique. Cet après-midi-là, les moines organisaient une table ronde sur le dialogue interreligieux. Ils avaient invité à déjeuner un rabbin et l'évêque d'Alger. Nous étions attablés sous les mûriers de l'esplanade, l'heure était délicieuse. La Durance dénouait ses entrelacs d'or dans les limons. Le rabbin était entouré de sa garde prétorienne, composée de types baraqués, cheveux ras et vestes ajustées. On voyait dépasser les pistolets Glock quand il s'asseyait. En vérité, le dialogue interreligieux commençait mal. Je partis après le déjeuner, empli de reconnaissance pour les moines, mais tournant allègrement le dos à la beauté, l'éternité et la névrose. Je m'étais enrichi de 20 € au monastère, car une vieille dame, prise de pitié pour ma défiguration, m'avait glissé un billet. « Vous ferez dire une messe pour qui vous voudrez. » Et j'avais pensé à ma mère qui n'en aurait jamais demandé tant. C'était la première fois que ma gueule cassée suscitait pareil élan de compassion. Mon accident m'avait affligé d'une paralysie faciale et ma grimace fascinait les enfants dans la rue. Même les chiens me regardaient bizarrement. Ma bouche, tordue, tombait sur le côté. Le nez était de traviole, la joue droite enfoncée, l'œil exophtalmique. Un fric, en somme. L'esthétique antique revivifiée par la Renaissance et le classicisme du XVIIe siècle m'affectait car elle imposait les canons de la symétrie. Seule la déconstruction cubiste au début du XXe siècle avait corrigé l'impératif d'équilibre. Les portraits de Picasso consolaient les types comme moi, atteints de paralysie faciale. Les premiers signifiaient au second que la vie peut s'accommoder de la laideur. Si j'avais vécu dans les temps médiévaux, en plein rêve de Bosch, ma disgrâce serait passée inaperçue. Je repris la marche dans des ravins argileux, rythmés de vasques claires et de talus crevés. Les ruissellements griffaient la terre et les racines des chênes verts empêchaient la déperdition des sols. En m'écrasant, j'étais devenu sourd d'une oreille et il m'arrivait souvent de perdre l'équilibre. Appuyé à mes bâtons de marche, je regrettais le temps où je vivais en entière possession de mes sens. L'odorat était à moitié perdu lui aussi et je ne humais plus la pleine haleine de la Provence, l'âcreté du ciste et la chaleur du calcaire qui est l'odeur de la lumière. Le soleil dégorgeait ses vapeurs dans les arbres. Cézanne n'avait pas de mérite à avoir nimbé sa Provence de teintes bleues. Au nord du village en ruine de Montlot, posté sur son éperon de calcaire pourri, la masse de la montagne de Lure apparut obscurcissant l'horizon. Son récif assombri de forêt barrait l'accès aux vallées septentrionales. Avant de jeter mon sac de couchage dans un bosquet de chênes verts, je m'allongeai à la lisière et restai une heure à fumer mon tabac hollandais dans une pipe en buis, les jambes lasses. Une cloche battit et la masse de Lure rejoignit la nuit. En cette année du XXIe siècle, cela me semblait bon de pouvoir passer une heure sans rien faire. Comme le petit personnage d'un tableau pastoral du XVIIIe siècle. Le 6 septembre. La montagne de Lure offrait la voie d'accès vers le pays du Ventoux. Il suffisait d'en gagner le sommet et de suivre la crête plein ouest. Les hêtraies déjà roussies annonçaient le sommet. Les tremblants percés d'orbites, les fourches encrouées donnaient au hêtre l'aspect des décors du fantastique allemand. C'étaient les forêts capables d'abriter les créatures de Fuseli, la madone de Munch, les cauchemars de Koubine et les squelettes d'Otto Dix. J'aurais pu contempler leurs œuvres allongées dans les feuilles cuivrées si les livres d'art avaient été moins lourds. Notre-Dame de Lure était une chapelle forestière construite à l'ombre des quatre arbres puissants sur une esplanade bordée d'une masure où vivait Lucien. Je le croisais à la fontaine où il remplissait ses seaux, écartant ses cheveux longs. L'endroit faisait un décor parfait pour chante-fable du XIIIe siècle. Il manquait un destrier prenant le frais et son gai cavalier buvant un vin de Provence. Lucien, on m'a parlé de vous à Ganagobi. Vous vivez en ermite ?
Oui,
depuis des années. Qu'est-ce qui vous manque ?
Rien.
J'ai des livres. On m'apporte un peu de nourriture. En ce moment, je lis le récit d'un type qui s'est enfermé dans une cabane au bord du Baïkal pendant quelques mois.
Je sais, c'est moi.
Il me montra le panneau fixé près du sentier de montagne qui bordait sa maison. J'accepte le pain rassis et les livres. Je persistais à croire que vivre ainsi à l'écart de grandes voies ne garantissait ni le confort ni l'équilibre psychique, mais permettait d'échapper au pire, les coups de téléphone et la queue dans les magasins. C'est-à-dire la défaite du temps et de l'espace. J'offris à Lucien mon exemplaire des Confessions d'un mangeur d'opium de Thomas de Quincey et lui dis que son panonceau était un programme de vie. 10 jours auparavant, dans le refuge du Mercantour, j'en avais vu un du même acabit qui proclamait « Ici, nous n'avons pas le wifi, mais nous avons le vin ». Ces lieux où l'on continuera à vénérer les substances vitales deviendront des temples dans un futur proche. On s'y rendra en procession à la manière des Japonais qui montent sur les montagnes une fois l'an, rejoindre un autel taoïste sous les cerisiers en pleurs.
J'aimerais tant te parler tendre un soir d'hiver au coin d'un feu, te dire des mots à pierre fendre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais tant tendre la perche d'un grand sourire radieux, prendre le temps de dire je t'aime, arrêter les courses et les jeux. Dans le silence, silence. J'aimerais te faire douce doudouce à 12h12 et pourquoi pas 13 doudouze à 13h13 blottis tendrement dans tes bras. Il n'y a jamais d'overdose pour les doudouces, enfin je crois. L'amour est une énergie douce qui réchauffe tant haut que bas. Dans le silence, dans le silence. Il fait froid, ce serait bon se fendre, d'un baiser tendre, même de deux, enfin se fondre et se confondre, et n'être qu'un bien qu'étant deux, se perdre dans l'espace immense, oiseau léger au gré du vent, perdre doucement connaissance, naître à nous-mêmes en même temps, dans le silence. Dans le silence, j'aurais tant aimé lire les lignes subtiles de tes blanches mains, pêcheur d'amour, tendre ma ligne pour te faire mordre mes lèvres. Au moins, oui, j'aurais tant aimé descendre au plus secret de tes jardins, écouter le vent dans les branches de tes longs cheveux châtains. Dans le silence, dans le silence. Mais je n'ai pas dû tant t'attendre, tu m'as prise au piège amoureux, et c'est moi qui me suis fait prendre aux appos si beaux de tes yeux. Et les prix qui croyaient prendre, j'étais seul, nous voilà deux. Je n'ai rien perdu pour attendre, le temps est venu d'être heureux. Dans le silence, dans le silence.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, suite. J'allais 3 jours durant sur l'échine de la montagne. Les chemins me rejetaient tantôt sur le versant nord, tantôt sur le versant sud de l'Ure, vieille bête couchée. Le calcaire était dur. Parfois, le marcheur est un forçat cassant son lot de cailloux. Au lieu-dit La Fontaine, une vieille dame claudiquait devant un mur non jointoyé, à son bras un panier de mûres. Elle leva les yeux, et c'était le regard que je cherchais, paysan dur, luisant de vieux savoir. Elle appartenait à cette catégorie de gens pour qui la santé des prunes est un enjeu plus important que le haut débit. Comment vont les choses ? Ne trouvais-je qu'à dire. Il n'y a plus de noyer ici, dit-elle. Le noyer aime la vie et il n'y a plus personne. De l'autre côté, elle parlait du versant sud, ils ont des champignons. Leur chance, dis-je, un malheur. Les gens accourent de la ville comme des doryphores et cueillent tout, sans distinguer le cep de la manite. Ils me montrent leur récolte, je ne leur signale rien, qu'ils s'empoisonnent. Quelle figure que cette sorcière! Elle allait bien avec les ruines de Lure. Elle rasait les murs, tenait des propos de grimoire, faisait de l'inquiétude un état d'esprit, manifestait la vieille angoisse de l'homme sous le ciel. Je remontai sur la crête vers Jean Bart et le Ventoux apparut plus proche, comme un sursaut des Alpes qui ne veulent pas mourir au sud et vont pourtant s'effondrer bientôt dans la plaine. La forêt masquait les restanques, tous ses efforts pour finir en ruine. Les terrassements témoignaient de la longue présence des hommes en ces versants et de leurs travaux herculéens qui avaient refaçonné le profil des reliefs. À marcher sur les calades bordées de murets, je pratiquais une forme d'archéologie vivante. Il avait fallu des millénaires pour métamorphoser ces pentes en escaliers agricoles. Quelques décennies avaient rendu les déclivités à la broussaille. La force aveugle de l'époque était cette rapidité avec laquelle elle se débarrassait des vieilleries. La mousse recouvrait les murets. Les ronces étaient la caresse du temps sur les empilements de pierre. Un chêne vert imitait pauvrement les arbres d'Angkor en essayant d'étrangler les murs. Le résultat était modeste. pourquoi les peintres ne s'étaient-ils pas intéressés aux terrasses abandonnées? Il y avait là toutes les caractéristiques des vanités du XVIIIe. Au lieu du crâne humain, de sa fleur et de son sablier, on disposait de la pierre où rampait le lierre. L'appareil symbolique était différent, mais le message était le même. Tout passe. L'éphémère du mur de pierre était même un peu plus triste. Car si le mur et l'homme étaient promis à la même désagrégation, le travail avait été plus harassant pour édifier le premier que pour reproduire le second. Le 8 septembre, sur les flancs du Ventoux. Quand j'échappais à une nuit entre les murs d'une auberge, je dormais dans les champs, mais maigrissais vite. Perdre du poids en marche, c'est laisser un peu de soi à la route. Sitôt les yeux ouverts, je brûlais de partir. C'était un moment que je chérissais dans la vie, les basculements dans l'obsession. Le Ventoux approchait, et je rentrais dans Sault. J'avais choisi de poursuivre par le flanc sud du mont, à l'angle des pentes, au contact du Comtat venaissin. C'était la fin des jours, dans les contrées scarpes de la Haute-Provence. Je quittais la citadelle, sortais des zones d'ombre. En bas, les plaines alluviales commençaient, riches, peuplées. Plus loin à l'ouest, je passerais le Rhône, et retrouverait alors en plein massif central la campagne abandonnée du rapport sénatorial. Le Comtat était la plaine riche, le verger gigantesque des papes repeuplés récemment d'Arabes immigrés, de touristes anglais, de Parisiens néo-ruraux. Restaient quelques cultivateurs provençaux, viticulteurs et maraîchers. À Sault, je buvais mon sirop en méditant sur l'ironie du destin. Avoir rêvé une vie de mauvais sujet, mon idole François Villon, se saoulant aux tavernes et composant sa poésie entre deux amours d'auberge, et se retrouver en balade à siroter du jus d'orgeat avec des gestes de patient de sanatorium. Je déprimais ainsi, l'œil mi-clos au soleil, quand les tables furent investies de cyclistes américains. Ils avaient 60 ans, ils étaient beaux comme des tennismen moulés dans des maillots. La langue anglaise les mettait en joie, ils riaient beaucoup et leurs dents étaient blanches. Ils se hélaient d'une table à l'autre, buvaient des vins frais, les gouttes perlaient sur les lèvres des femmes. Non seulement ils savaient vivre, mais ils savaient le montrer. Les agences provençales organisaient les circuits, fournissaient les bicyclettes. Ils étaient des centaines à tourner autour du mont Ventoux avant de se retrouver le soir dans des gîtes fleuris. Au Tibet, les pèlerins tournaient aussi autour des montagnes sacrées en haillons, avec des regards hallucinés dans des faces de charbon. Au fond, pèlerinage de clochards et randonnée américaine revenaient au même. Se désennuyer. L'aveu terrible de Barbet d'Aurevilly conduisait nos existences. L'ennui, qui est bien le dieu de ma vie. Mes voisins luttaient mieux contre la neurasthénie que le dandy normand. Ils jouissaient d'une Provence en technicolore, pays d'affichistes, avec petits villages flanqués sur des montagnes ocres. Trop de classe sous cette tonnelle. J'eus le sentiment d'être mal fagoté. Quand l'Américain débarque quelque part, le Français a l'impression de ressembler au péquenaud normand de 1944. Je me levai et partis sans déranger ces beaux animaux roses. Je ne pensais rien de désagréable à leur endroit. Je ne me dis pas que derrière un sourire parfait, il y a toujours le masque d'un ogre, non, rien, pas de sarcasme. En vérité, j'enviais leur gaieté. Plus loin, au soir venu, je dormis dans une clairière de pins. Une chapelle y était édifiée, au pied de laquelle je fis un feu et l'immense coiffe de pierre blanche du Ventoux apparaissait dans la trouée des arbres si haute, si éclatante, qu'un esprit non informé l'eût prise pour un nuage dont les rondeurs s'assoiffaient de lueurs. Cette clairière était l'un de ces lieux que les chrétiens avaient prisés au temps où ils construisaient leur chapelle, là même où les cervidés faisaient depuis longtemps des lits à baldaquins de leur nuit d'été. Le 9 septembre, dans le comtat Venaissin, les matins étaient difficiles. Il me fallait secouer les mauvais rêves, chauffer les cartilages. Je recourais au principe que j'avais exploité en suivant la retraite des grognards de Napoléon ou des évadés de l'URSS. Quand on pense à plus malheureux que soi, on se console. La combe où je descendis dans l'aube était moussue, ombreuse. Des ruines d'abris de bergers s'appuyaient au pied des parois. Jusqu'aux transhumances de l'avant-guerre vers le Ventoux, les hommes y parquaient les bêtes. Les nuits dans la tiédeur du troupeau devaient être aventureuses et profondes. Je regrettais de n'avoir pas atteint l'endroit la veille pour y jeter un campement. Je regrettais de ne pas l'avoir atteint il y a 1000 ans. Les buis luisaient, cirés de lumière. L'étoile d'araignée cédait à mon passage, sceau de virginité du chemin. Les enclos de pierre se succédaient, ils représentaient les travaux de ces jours où les hommes marchant dans les forêts n'étaient pas des usagers d'espaces arborés. Ces vestiges rehaussaient la solennité de l'ombre. Le chemin déboucha sur une perspective, le comtat se déployait, rayé d'asphalte. La rumeur des moteurs s'élevait. Dans mon dos, le lent aménagement des abris pastoraux, devant moi, routes et voies zébrant la vallée où circulaient bêtes, hommes et marchandises. Dans le ravin, le monde d'hier. Vers le sud, le présent, et déjà l'annonce des zones périurbaines avancées au pied du Ventoux. La conquête du territoire français par ce nouvel habitat avait été rapide. Quelques années suffirent à la chirurgie esthétique de la géographie. En 1945, le pays devait se relever. Redessiner la carte permettrait de laver les hontes de 1940. La prospérité nouvelle assura le projet. L'État logea les enfants du baby-boom. Les barres d'immeubles poussèrent à la périphérie des villes, puis il fallut étaler l'urbanisme, comme le disaient les aménageurs. Leur expression était logique, puisque le béton est liquide. L'heure fut au désenclavement. La ville gagnait du terrain. Ce fut le temps des ZUP dans les années 1960, des ZAC une décennie plus tard. Les autoroutes tendirent leurs tentacules, les supermarchés apparurent. La campagne se hérissa de silos. Pompidou était gros et la France prospère. L'agriculture s'industrialisait, les insectes refluaient, les eaux se polluaient. Seuls quelques rabat-joie du Larzac prévenaient du désastre. On les prenait pour des gauchistes, ce qu'ils étaient. On les laissa lire Lénine dans l'humidité des bergeries. Le septennat de Giscard sonna le deuxième acte. Une loi d'urbanisme autorisa les constructions particulières sur les surfaces agricoles. Le temps des maisons individuelles était venu. Chacun aurait son paradis. Le rêve pavillonnaire moucheta le territoire. Vu d'avion, on aurait dit que le sucrier renversé avait craché ses cubes sur la nappe. Au sol, on entendait aboyer les chiens. La maison familiale se répliquait à l'infini, les enfants jouaient dans les jardins, protégés par les tuyas. C'était tout de même mieux que l'entassement dans les villes. La décentralisation de Gaston Defferre fut l'estocade. Les collectivités reçurent les clés de leur développement. Réveillez-vous, provinces endormies, claironna l'État. les enseignes d'hypermarchés fleurirent et les petits commerces ne résistèrent pas. Mammouth balaya de la queue les bistrotiers qui offraient le pastis le matin aux cœurs assoiffés désormais. Pour se saouler, il fallait acheter son cubitus en grande surface. Voilà donc pour ce soir la suite de ce récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.